sujet passionné, où les Québécois, justement, Québécois, ont été appelés à travers le Québec à réfléchir ensemble, à dialoguer, et aussi marquer leur point d'appui comme leur divergence concernant les accommodements raisonnables. Donc, ce matin, j'ai 45 minutes devant moi. J'aimerais ça séparer ça en deux périodes. Simplement vous parler comment toute la question des accommodements raisonnables, bien entendu la position biblique. Et après, j'aimerais peut-être vous laisser poser quelques questions, parce qu'on ne pourra pas débattre de tout. Mais peut-être il y a des questions dans votre cœur qui disent, moi là, ça, cette question-là, c'est important pour moi, puis je vais la poser pour le bien de tous. Et j'aimerais justement vous laisser cette liberté. Donc, j'ai 45 minutes. Donc, je vais essayer dans 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, faire le tour de cette question. Bon, commençons par la mise en contexte de tout ça. Vous savez, les années 77, c'était l'année de l'Expo, pour les plus jeunes d'entre vous, comme moi. On a vécu ça d'une façon extrêmement surprenante parce que le monde est venu avec nous, parmi nous. Et on a ouvert nos yeux parce que les Québécois, on était des Québécois blancs, catholiques, où il y avait une minorité protestante, mais je ne connaissais pas à l'époque. Et tous ces gens-là, c'était des étranges. Hein? Et on était en premier contact. Après, en même temps, au niveau politique, il y avait toute cette révolution tranquille des années 60, 67, 70, où on a vu justement notre société commencer à avoir des immigrants. La première vague a été la vague haïtienne, qui sont entrés au Québec en 77, et aujourd'hui, ils sont 150 000 Haïtiens à Montréal. Donc, il y a eu une première vague. Après, il y a eu toutes sortes de vagues à travers les conflits, les problèmes mondiaux. Et il y a eu la vague, justement, des Libanais. Il y a eu la vague, vous savez que Michel Habib est un Libanais. Vous avez eu la vague des Algériens, des Irakiens, des Iraniens. Et ça a été la vague un petit peu des années 80, 90, et ça a été la vague un peu musulmane. Et ce qu'il faut voir, aujourd'hui, nous avons la vague africaine. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 10 églises congolaises, seulement dans la région de Montréal. Donc, le visage du Québec change et se transforme rapidement, parce qu'il y a eu des vagues, et le Québec et le Canada est un pays d'accueil, et c'est un pays où il fait bon vivre. Et les gens, il y a beaucoup de demandes, on parle de 60 000 nouveaux immigrants par année au Québec. Donc, ça change les choses, ça nous change, et ça nous oblige à nous à se positionner. En même temps, il y a un autre phénomène au Québec qui s'est passé. Dans les années 70, il y a un phénomène en disant « Nous voulons vivre notre vie comme Québécois. On ne veut plus que l'Église soit notre mère, qu'elle nous impose ses valeurs et sa façon de penser et de vivre. » Et on a rejeté beaucoup de valeurs, de repères. Et à ce moment-là, le Québécois, en général, ce qu'on appelle, vit une crise profonde d'identité. Et la commission Bouchard-Taylor a fait ressortir le problème complexe de l'identité. Comment est-ce que je peux parler à quelqu'un, à l'immigrant, à l'étranger, au réfugié qui est parmi moi, parmi nous, si moi-même je suis instable ou je ne sais plus qui je suis réellement? Nous, comme protestantes, alors je vais en parler, comment on se situe dans tout ce débat et comment on va se positionner dans l'accueil de l'immigrant, du réfugié. Il faut savoir aussi que dans cette approche que nous sommes appelés à vivre, dans cette révolution, dans cette ouverture, dans cet esprit de solidarité, mais nous devons justement, comme protestants, comme église protestante, dire comment nous allons faire ces choses. Si vous écoutez un réfugié, si vous rencontrez une personne, est-ce que nous sommes portés à faire le contact, à faire l'ouverture, à tisser des liens d'affection et d'accueil, ou tout simplement, nous sommes sous nos gardes parce que nous avons certaines peurs, et à ce moment-là, c'est difficile. Personnellement, chez nous, nous avons accueilli un jeune Congolais depuis 3 années. un réfugié. Et vous savez, les réfugiés dans le monde vivent des situations extrêmement difficiles, où les gens, justement, sont battus, tués à cause de leur ethnie, à cause de leur divergence politique. Et depuis 3 années, j'ai ce jeune Congolais qui s'appelle David Luemba, qui habite chez moi, et nous avons justement appris à son contact, justement, cette ouverture, cette tolérance, parce que cette culture ne pense pas comme notre culture, et il y a un choc culturel, et il nous faut justement avoir cette ouverture, mais aussi cette compréhension de l'autre, et faire l'effort de cette compréhension de l'autre. Donc, rappelez-vous, Expo 67, le monde est venu ici, mais ils sont retournés. Dans les années 70, le monde est venu, le monde est rendu ici. Et partout, des gens du monde entier demeurent au Québec, et la face de Montréal et la face de toutes les régions du Québec vont être touchées. À Trois-Rivières, vous allez être touchés. Parce que de plus en plus, au milieu du travail, au milieu de l'éducation, les jeunes vont côtoyer des gens qui ont des pensées différentes, des visions du monde différentes, une culture différente, et comment nous allons interagir. Donc, le monde est à nos portes, et nous avons à nous positionner. C'est vrai que les Québécois, c'est tout récent. 70, c'est 40 ans. C'est pas beaucoup, mais nous devons nous habituer à cela. Donc, notre gouvernement, à travers la commission Bouchard-Taylor, a voulu tout simplement prendre contact avec la population et a voulu faire, si vous voulez, une espèce de réflexion commune pour sensibiliser les Québécois à l'immigrant et sensibiliser l'immigrant à l'identité québécoise, aux valeurs québécoises. C'était la commission, si vous voulez, extrêmement à l'écoute du Québec, mais aussi un lieu de pédagogie, un lieu d'instruction, un lieu de formation. Et nous, comme table de consultation sur l'éducation protestante, nous avons déposé un mémoire, nous sommes en discussion avec le gouvernement sur plusieurs points, et nous poursuivons cette discussion parce que nous voulons, justement, que nous, comme protestants évangéliques, nous avons quelque chose à dire parce que nous portons la parole de Dieu dans notre cœur et nous voulons rendre sensibles les gens à travers ça. L'accommodement raisonnable est premièrement une question juridique. Et premièrement, elle a un cadre juridique. Souvent, on pense accommodement raisonnable, c'est l'immigrant qui vient et qui demande qu'on l'accommode. Mais l'accommodement raisonnable a 3 éléments. Premièrement, elle doit toucher un règlement, une loi. Elle peut toucher un article de convention collective, un code vestimentaire, un environnement physique. L'accommodement raisonnable n'est pas uniquement religieux, mais les handicapés, les femmes enceintes, tous les individus qui disent « Ici, je me sens discriminé par rapport à un lieu physique, à une attitude ou parce qu'il y a un problème d'équité. » Et à ce moment-là, l'accommodement raisonnable se met en place et il y a un cadre de loi. Au sens le plus strict, c'est la possibilité pour un tribunal d'exempter une personne de l'observance d'une loi ou d'une règle dont l'observance serait pour elle une cause de discrimination directe ou indirecte en l'empêchant de jouir, par exemple, de certains droits qui lui sont octroyés par les chartes. Et c'est pour ça que toute la question du kirpa, du hijab, ou pour toutes sortes de situations, les gens disent « je me sens discriminé, je sens qu'on me rejette, je sens qu'on ne me comprend pas, donc je fais appel aux tribunaux pour toucher ces choses-là. » Mais dites-vous, souvent, et vous avez dans vos pensées toute la question du kirpa, vous avez la pensée dans l'Ouest canadien, de ce Sikh qui voulait être dans la GRC, mais qui devait... Il y avait un problème avec sa coiffure. Et tous ces débats ont eu lieu, et le Canada essaie de trouver des accommodements raisonnables. Mais souvent, ce sont ce qu'on appelle des accommodements raisonnables ou des accommodements volontaires. Dernièrement, il y a eu 2 cas d'accommodements qu'on a appelés des accommodements plutôt obligation d'accommodement ou accommodement volontaire. Vous vous rappelez la question du royaume Sié, où les gens passaient sur la rue et puis les jeunes femmes et les hommes étaient dans C'est un espace où il faisait de l'exercice physique, mais c'était dans un quartier où il y avait des Juifs. Et les Juifs ont été voir le royaume de Dieu, on va payer et on va vous givrer vos vitres. Et ça fait un tollé. Mais ça, ce n'était pas un accommodement raisonnable. Et on ne peut pas le mettre sur le dos de l'accommodement raisonnable. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le droit, et eux, ils avaient le droit de fermer leurs yeux aussi. Donc, on ne pouvait pas faire. Donc, c'était ce qu'on appelle un accommodement, tout simplement, volontaire. Et ils l'ont fait. Vous vous rappelez de la situation avec la cabane à sucre? OK? Ça a été une discussion incroyable, la cabane à sucre. Pourquoi? Parce qu'il y a des musulmans qui ont voulu vivre une coutume québécoise, mais ont dit qu'il faut enlever le lard. Le lard dans les bines. Et puis là, et ça a fait un tollé. Pourquoi? Parce que le Québécois mange ses bines avec du lard. Mais est-ce que c'est un accommodement raisonnable? Bien non! C'est pas une question d'identité, c'est comme si on touchait le plat de fèves, parce qu'il y a du lard, ça touche à notre identité. Ce n'est pas une question de ça. C'est un accommodement volontaire. C'est une question de business. Si je veux que les musulmans viennent à ma cabane à sucre et qu'ils payent le prix, je vais faire un changement. Mais les Québécois, ils se sont sentis un peu frustrés parce qu'ils ont dû avoir une place et se déplacer. Mais ça, c'est une responsabilité, encore une fois, du propriétaire. Pauvre propriétaire, il a été un peu bousculé dans tout ça. Mais il reste que l'accommodement raisonnable, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une discrimination. Si je vous posais la question, combien pensez-vous qu'il y a eu de plaintes d'accommodement raisonnable de 2000 à 2005? Combien? 20? Combien? Non. Je vais vous arrêter. 4000. Et je vous pose une autre question. Parce qu'aujourd'hui, avec nos médias, avec l'effervescence de nos médias, parce que les médias font leur chou gras, de montrer que les églises et la religion est une mauvaise chose. Parce qu'il y a des divisions, on ne peut pas s'entendre, on est des radicaux. À ce moment-là, savez-vous combien de pourcentage de ces 4000 cas? Combien de pourcentage? En pourcentage du 4090% pour cause de religion? Qui dit mieux? 2%. Mais celui qui a dit 3%, c'est bon. Parce que souvent, et vous allez comprendre que notre problème se situe là. Dans la société québécoise, dans les années 70, on va dire qu'on a réussi à sortir de l'appareil de l'État, des institutions, ce qu'on appelle la domination religieuse, des années 70. Et on a vu mettre en place deux courants qui s'affrontent toujours aujourd'hui. Le premier courant, c'est ce qu'on appelle l'humanisme, qui est devenu la laïcisation ou la sécularisation de l'État. Vous comprenez? À ce moment-là, il y a un mouvement fort qui veut que l'État soit un État neutre, laïque, séculier, où il y a une séparation Église et État. Et l'interprétation que la société québécoise fait, ça veut dire l'État demeure neutre pour toute question religieuse, elle n'intervient pas, elle ne favorise pas, mais ce n'est pas la pensée d'une pensée de la laïcité bien comprise. La laïcité bien comprise, c'est de permettre à la religion de s'exprimer dans l'espace privé, public, sans contrainte. Mais que ça veut dire que l'État n'a pas à venir légiférer la pensée et les actions de l'Église. Mais il y a un autre courant fondamental qui dit la religion appartient à la famille, à l'Église, mais pas dans l'espace public. Vous comprenez? Donc, il y a un fort courant dans notre société québécoise qui dit la religion, on l'a tassée des années 70, on a enlevé la domination, vive l'humain, vive l'homme, vive l'humanisme, vive tout ce qui est laïque. Et ça, c'est la pensée la plus dangereuse qu'il y a. Et tant, je vais en parler. La pensée la plus dangereuse, c'est une confrontation entre, je le dis, entre la laïcité de notre société et le christianisme et ses valeurs dans cette société. Il y a un rejet, pas seulement de l'Église, pas seulement de notre relation avec Dieu, il y a un rejet des valeurs que nous portons. Et la grande valeur que nous portons, c'est justement la valeur de l'Évangile et le vécu de l'Évangile. Mais les gens veulent nous dire, à tous et chacun, puis tout à l'heure je vais donner l'exemple de l'école, l'école n'est pas un lieu de transmission de la foi, nous comprenons ça. L'école est un lieu de neutralité où on doit faire de bons citoyens avec des valeurs communes pour le bien commun, pour le bien vivre ensemble. Mais la religion est cause de conflits, de tensions, donc il n'est pas question de religion. À ce moment-là, dans toutes les discussions, au niveau du gouvernement, au niveau des institutions civiles, ils disent que c'est une question de religion, pas de subvention, pas d'intérêt, pas de participation. Ou s'ils le font, ils vont faire la participation, ils vont faire une présence, mais sans jamais engagement, parce que tout doit être neutre. Mais c'est plus vicieux que ça. C'est beaucoup plus vicieux que ça. Il y a un mouvement extrêmement fort qui oppose l'humanisme aux valeurs du christianisme, et en même temps, ce qui revient à la surface, c'est que les gens comme les musulmans, les bouddhistes, tout ce qui est religion orientale, viennent et par le biais des droits de la personne, par le biais des droits de la personne, des droits de la charte, ils viennent et ce que nous avons accepté d'avoir été tassé, nous avons été accepté d'être tassé dans le droit de parole et d'action, à ce moment-là, eux ne l'acceptent pas. Parce que eux, ils vivent en disant que la politique, l'économique, le social et la religion sont comme ça. On ne peut pas. Nous, d'un côté, on dit la religion et l'État sont séparés, c'est une bonne chose, parce que le mariage n'a pas été une bonne chose pour nous. Pour les minorités, c'est jamais une bonne chose. Puis eux disent, ils reviennent ici à nous voir, et ils disent, écoutez bien, nous, il faut que vous nous respectiez. Quand vous nous invitez à venir vivre ou qu'on vous demande de venir vivre ici, parce que nous apportons pas seulement nos dollars, nos connaissances, nos compétences, on apporte trois choses. Quelles sont les trois choses qu'ils apportent? Parlez un peu plus fort parce que ici je vous vois un peu mal à cause de ça, là. Ils apportent la religion, leur culture, l'économique, si on comprend, les familles, la multiplication des familles, mais ils apportent leur vision du monde. Et où est la tension et le conflit? C'est entre les visions du monde. Nous avons notre vision du monde, nous avons notre culture, nous avons une religion dominante. Et nous, comme minorité protestante, nous naviguons à travers tout ça. Mais eux, quand ils viennent, ils disent, vous allez nous respecter, et si vous ne nous respectez pas, on va aller aux tribunaux pour faire respecter l'intégrité de notre personne, de notre dignité, qui concerne notre vision du monde, notre culture, notre réseau, nos associations et en même temps notre religion. Et la religion s'exprime comment? Elle s'exprime comment? Dans le monde protestant, on a peu de signes extérieurs. On a nos bâtiments, on ne porte pas de croix. On ne porte pas de foulard, on ne porte pas de bracelet, on ne porte rien. Nous ne sommes pas des porteurs de symboles. Le seul symbole que nous avons, si vous voulez, qui est puissant, c'est notre affection pour la parole de Dieu. Mais fondamentalement, on ne porte pas de symboles. Mais lorsque vous parlez, quand vous pensez aux musulmans, là vous avez leurs bâtiments, leurs édifices, vous avez quoi après? Leurs vêtements? Vous avez leur rituel, vous avez leur temps de prière 5 fois par jour. Vous avez un tas de choses et qui vient perturber tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans l'espace public, pas dans l'espace privé. Dans l'espace public, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand la personne dit, moi, je dois aller prier 5 fois par jour, qu'est-ce que tu fais avec ça? Dans l'hôpital, quand la personne dit, moi, je vais être traité par une femme médecin, les Québécois, si on demande ça, La réponse, ça va être quoi? Si nous, on va à l'hôtel de ville pour leur demande d'avoir une église à Montréal, ils vont me dire quoi? Aller acheter une église existante, on ne donne plus de permis. Mais pour eux, c'est curieux, ils ont les permis et les bâtiments. Parce que c'est une minorité. Et dans la tolérance du Québec, et dans leur invitation, ils disent, vous allez avoir vos lieux de culte. Vous allez pouvoir vous vêtir, mais vous devez partager les valeurs communes de démocratie, de liberté, d'égalité. Mais eux, ils interprètent tous ces mots-là dans leur langage. Pour eux, l'égalité, c'est quoi? C'est que tout le monde est égaux, en dignité, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a une égalité entre hommes et femmes? Ce n'est pas discussion, ce n'est pas dans leurs valeurs et ce n'est pas dans leurs pratiques. Vous comprenez? À ce moment-là, les questions se posent. Comment les accueillir? Comment leur laisser l'espace pour ces gens-là? Mais en même temps, il faut élargir le débat. Comment je reçois, comment on accueille l'immigrant qui vient de l'Afrique, qui a un arrière-plan chrétien? Comment on accueille fondamentalement celui qui vient de la Roumanie? Celui qui vient justement de tous les pays de l'Est? Comment on les accueille? Et ce que nous avons remarqué un phénomène, c'est que quand le Québécois se sent en minorité dans un groupe, et ça c'est remarquable, il quitte la scène, il se retire, il va en banlieue, il sort de l'Église, et l'Église se transforme en une Église ethnique, première génération. Première génération. Donc le Québécois, fondamentalement, a de la difficulté lorsqu'il ne s'en sent pas en sécurité dans son identité, mais il a une profonde difficulté à identifier trois choses. Sa vision du monde, sa culture et sa religion. Pour nous, les chrétiens évangéliques, on sait en quoi on croit. On sait notre position. Mais notre position dans la scène publique, nous sommes plutôt des citoyens dans la scène privée. Ici, c'est privé. Dans la scène publique, nous ne sommes pas tellement présents. Moi, on pousse, nous, à être beaucoup plus présents. Mais on n'est pas tellement présents. Donc, c'est pour ça que, et nous, on ne fait pas de revendications. Ou on va devoir se lever lorsqu'ils vont dire, vous ne pouvez pas faire de prosélytisme. Vous ne pouvez pas avoir votre permis pour faire la distribution de Bible. Là, on va faire un appel à aux chartes des droits de la personne en disant, j'ai une liberté de religion, j'ai une liberté de conscience et ma liberté de religion me donne le droit de faire de la proclamation et de la propagation de ma foi dans l'espace public. Et là, le mouvement laïque, il va dire, nous avons une valeur de tolérance et à ce moment-là, attention, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites. Et là, nous, comme chrétiens évangéliques, on va dire, non, c'est assez. Et on va faire valoir notre droit à la liberté basée sur la Charte des droits. Mais tout le monde fait la même chose. Lorsqu'ils se sentent discriminés dans ce qui est le plus profond, dans les convictions extrêmement profondes, ils font appel à la Charte des droits. Donc, le mouvement laïque, sa peur et sa plus grande peur, c'est quoi? C'est de voir arriver ce qu'ils ont chassé des années 70, c'est de voir arriver par la Charte des droits une nouvelle confessionnalisation où la religion dans l'espace public prend de plus en plus de place. Et ils ont peur de ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Vous comprenez, je vous trace un tableau rapide des enjeux. Donc, un mouvement laïque, humaniste, qui veut retirer la religion de l'espace public. Nous qui disons qu'un citoyen à part entière, c'est quelqu'un qui a intégré sa foi, ses croyances, ses valeurs dans l'espace privé, mais aussi dans l'espace public. Nous disons que les chrétiens doivent avoir une voix dans l'espace public et que personne ne devrait être capable de nous faire taire et qu'on transporte avec nous nos valeurs, notre vision du monde. Je répète, notre culture et notre religion. Les musulmans et les autres vont appeler par leur attitude à une plus grande radicalisation du peuple québécois. C'est-à-dire, le peuple québécois va devoir qui je suis, qui nous sommes comme peuple, qu'est-ce que nous voulons faire avancer, quelles sont les valeurs qu'on veut mettre en place. Des valeurs de tolérance, de solidarité, tout à l'heure on parlait. Mais qu'est-ce qui est permissible et qu'est-ce qui est déraisonnable? Et voilà le débat. Qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui est déraisonnable? Comment on va arriver à un consensus de société? Parce que le Québécois aime le consensus, aime cet esprit. Moi, mon problème, c'est qu'actuellement, le Québécois, dans sa position de repli par rapport à ses discussions sur la place publique, parce que nous ne sommes pas présents, à ce moment-là, sa position de repli, il laisse la place à tous les autres. À tous les autres, et à ce moment-là, ça devient les autres qui vont établir ce consensus. Moi, personnellement, je dis que plus que jamais, il faut que l'Église elle-même puisse se positionner dans ce débat-là et puisse parler dans ce débat-là. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu et pourquoi nous devons le faire? Et quelle est l'attitude que nous devons faire? Parce que nous avons parlé d'un grand malaise justement dans notre société concernant justement l'immigrant que je ne connais pas. Nous avons un grand malaise avec l'autre qui m'est difficile de comprendre sa vision et sa pensée et sa façon de vivre. Quand je le vois en ses vêtements, quand vous voyez une femme à Montréal, puis ici, ils vont venir ici, j'en suis convaincu, il y a déjà dans la région, avec des hijabs, c'est déjà une barrière pour nous. Un autre va arriver avec son turban, c'est déjà une barrière. On associe. Mais ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que à l'intérieur de ça, c'est quel est pour nous chrétiens qui croyons justement que nous avons un évangile pour le monde entier. Avant, on envoyait des missionnaires partout dans le monde pour amener cet évangile. Aujourd'hui, ce monde est parmi nous. Comment nous allons développer des structures à l'interne, des structures d'accueil, d'intégration, d'assimilation, dans le bon sens du mot, où ces gens-là vont sentir qu'ils sont vraiment aimés de Dieu et que l'Église va les accueillir comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je vous dirai sincèrement que comme Église, nous avons besoin d'entrer dans ce débat pour nous-mêmes, trouver notre propre sens et notre propre valeur en disant, est-ce que je tends la main à l'immigrant, au réfugié, ou est-ce que tout simplement je la retire? Et là, dans l'Ancien Testament, vous savez que le peuple a vécu l'expérience de l'exil. Vous savez que Abraham a quitté son pays, il était un immigrant dans le pays Canaan. Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. On savait, Jacob était appelé un Araméen errant qui descendait en Égypte et c'est un petit homme qui y séjourna afin d'y devenir une grande nation puissante et nombreuse. Mais c'est un immigrant. Il est venu, il est allé en Égypte et il a grandi. La dure épreuve des migrations et des déportations revêt un caractère fondamental dans l'histoire du peuple élu, en vue du salut de tous les peuples. Et regardez le texte de Lévitique, chapitre 19, versets 33 et 34. Je vous le lis. Écoutez bien ce texte. « Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Un autre texte, vous avez retrouvé la même pensée en Exode 22, 20. Et l'Évangile donne une profondeur tout à fait nouvelle à cette interprétation lorsque Jésus s'identifie lui-même à l'étranger dans la parabole du jugement dernier. Matthieu 25, verset 35, quand il dit « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » La parabole du bon samaritain. Et vous savez comment les samaritains et les juifs n'étaient pas copains-copains. Mais il donne l'exemple du samaritain qui n'est pas mon copain, mais qui va agir comme un copain. Vraiment avec beaucoup d'amour, avec un détachement, et il va faire ce qui doit être fait. Et ça choque, parce que Jésus prend un exemple à l'extérieur de son peuple pour dire, c'est ça l'accueil. Et c'est ça l'amour. Et vous ne pratiquez pas l'amour. Et en même temps, nous-mêmes, nous sommes appelés, nous qui étions étrangers avec Dieu, Dieu nous a accueillis dans sa famille. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Donc, Dieu a un souci pour l'étranger, a un souci pour justement celui qui vient d'ailleurs, et nous sommes, nous, lumière et sel, nous sommes, si vous voulez, l'accueil de Dieu parmi nous. Il y a une pensée actuellement qui est très vivante parmi les Québécois. On a assez d'immigrants. On a assez d'étrangers. Ils veulent tout changer, ils vont tout changer. On ne se reconnaît plus. Et là, on cite l'exemple. Le sapin de Noël, c'est devenu le sapin de la lumière. Noël, c'est devenu quoi? Joyeux, non, même pas joyeuse fête, c'est le solstice. La fête du solstice. C'est beau, hein? Oui. Tout à fait. Oui, c'est ça. Mais le problème est beaucoup plus, encore une fois, il y a deux courants. Le mouvement laïque veut dissocier le symbole de son message. Donc, un sapin de Noël, c'est culturel, on va le dire. Mais quelle est la signification? Ce n'est pas Noël, ce n'est pas Jésus. C'est autre chose. Et c'est la même chose partout. Comment Hérouville a réagi? Qu'est-ce qui fait qu'Hérouville a réagi? C'est tout simplement, c'est parce que la peur, on dit, on va se donner des règles. On va se donner des règles de conduite, nos valeurs, on va les mettre déjà. Et quand l'immigrant va venir, ce qu'il est en train de dire au gouvernement, mettez vos culottes. Mettez des règles sûres, des valeurs sûres, et éduquez-les, afin que quand ils arrivent ici, ils savent à quoi s'attendre. Le problème fondamental, c'est que l'immigrant, quand il vient avec sa vision, avec ses attentes et ses besoins, c'est comment nous allons entrer en dialogue pour qu'ils puissent bien comprendre notre vision des choses, nos valeurs de société, et comment nous allons apprendre de lui, dans sa vision et ses valeurs de société. Donc, il nous faut instaurer ce dialogue. Ce que Dieu est en train de dire ici, nous n'avons pas le droit de l'exploiter. Nous n'avons pas le droit de le maltraiter. Nous devons avoir une équité envers lui et le respecter. C'est beaucoup, ça va nous demander la bonne attitude de faire l'effort de la société ouverte et une société en dialogue qui elle-même se sent à l'aise avec sa propre foi, avec ses propres valeurs et ses convictions. On ne peut pas transférer sur l'immigrant notre propre problème. Qui suis-je? Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous valorisons? Mais en disant, ah, mais l'immigrant qui nous pose la question nous oblige tout simplement à y réfléchir. Aujourd'hui, nous avons besoin de dire que notre société d'accueil et la grandeur d'une société se voit dans la qualité de l'accueil. Jean Chrétien disait que le Canada est le plus meilleur bon pays. Il a raison. Le plus meilleur pays, le plus bon meilleur pays, en tout cas, il en mettait. Mais il a raison. Mais en quelque part, nous, comme Québécois, nous réagissons à ça en disant c'est vrai, mais quelles sont les conditions? Comment on va vivre ensemble? Et actuellement, on voit qu'il y a une radicalisation. On ne veut pas que les gens deviennent en ghetto. Et nous savons pourtant que la première génération des gens qui viennent de l'extérieur, là, je vous mets en peau d'un immigrant pour quelques minutes. Vous faites l'effort? Vous me suivez? L'immigrant est en Afrique, dans un camp de réfugiés. L'immigrant est en Roumanie. Il a été dominé pendant des années par le communisme. L'immigrant est tout simplement en Asie, où ils ont appris Pan-Asie, Moyen-Orient, et puis l'Asie encore plus profonde. Ils ont dit que Dieu, ça n'existe pas. Et que ils ont appris d'autres systèmes de pensée. Et là, vous voulez changer votre condition de vie, vous les améliorer, pas pour vous, N'oubliez pas que l'immigrant n'arrive pas pour lui-même, pour sa famille, pour un avenir heureux pour sa famille. Et là, vous arrivez dans ce pays, c'est quoi votre premier geste? Aidez-moi. On va faire quoi? Les gens de ton origine, les groupes associatifs, ils vont regarder quoi? Ils vont aller chercher les repères culturels. Leur intention, c'est d'entrer dans une autre communauté. Ils vivent un choc culturel en venant ici, parce que déjà, ils ont appris là-bas que le Canada, pas sérieux au niveau des valeurs. Il faut se protéger. Il faut se protéger des valeurs occidentales. Il faut se protéger. Mais en même temps, on veut vivre le rêve américain. On veut vivre le Canada. Mais en même temps, quand je viens avec l'idée de ne pas m'intégrer nécessairement. Je viens tout simplement avec l'idée que je vais m'intégrer progressivement et que mes enfants vont s'intégrer. Mais ce que je vais chercher, c'est mes réseaux, les gens qui pensent comme moi, qui vivent comme moi, qui s'habillent comme moi, qui mangent comme moi. C'est vrai? Et ils vont le faire. Et à ce moment-là, on dit, oui, mais ils vivent ensemble. Ils ne veulent pas s'intégrer. C'est le vrai pour la première génération. Et ils ont des exigences de première génération. Mais la deuxième génération, c'est un autre monde. C'est vrai qu'il y aura toujours des extrémistes, des fondamentalistes, des radicaux, appelez-les comme vous voulez, qui vont revendiquer leur droit d'être différents et de ne pas s'intégrer. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bonne question, qu'est-ce que vous faites avec ça? Le respect, tu les laisses vivre. Pourvu qu'ils n'abusent pas, mais pourvu qu'ils respectent les règles du bien commun et du droit commun. Mais tu vas leur donner le droit d'association, droit de leur religion, de leur croyance, du costume vestimentaire. Tu vas donner toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que la société d'accueil, dans son devoir d'accommodation, va leur permettre de garder leur dignité dans leur symbole, dans leur rituel, dans leur pratique religieuse et dans la façon de vivre ensemble. Parce que sinon, si nous ne faisons pas ça, à ce moment-là, il va y avoir radicalisation de l'ensemble de la société. Il va y avoir radicalisation des Québécois de souche. Il va y avoir radicalisation des églises. Il va y avoir radicalisation tout simplement de tous les mouvements parce qu'ils vont dire, je vais protéger mes acquis. Nous allons protéger nos acquis. Et ça devient extrêmement dangereux. Je disais donc, nous avons besoin, comme Église, d'être un lieu d'accueil, un lieu d'intégration, un lieu justement où on tend la main, où on rend des services, où on se préoccupe de l'étranger, de l'immigré, du réfugié, parce que nous avons un réel souci et nous allons aller jusqu'à, si vous voulez, à ouvrir nos foyers, à ouvrir le dialogue, à parler avec eux. Ça, c'est un devoir de l'évangélique. Donc, il faut, et j'aime que cette Église réfléchisse là-dessus, parce que l'Église, en réfléchissant sur ce point-là, elle dit tout simplement, je veux avoir cette sensibilité. Peut-être ici, il y a des gens d'une autre culture. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent extérieurs du Québec, ici, ce matin? Si je vous posais la question, comment vous aimeriez être intégré, vous me diriez, mais j'aimerais qu'on applique justement Matthieu, chapitre 7, ce que tu veux que l'autre fasse pour toi, fais-le pour lui, sur un principe d'équité. Et en même temps, celui qui vient du Congo, ou des endroits laïciens qui vient d'un monde évangélique, il aimerait trouver sa place parmi nous. Et pas seulement une place où il s'assit sur un banc, mais une communion, une relation et une intégration. Et c'est important, je crois, qu'il nous faut entrer dans cette discussion. Nous avons dit que l'accueil dérange. Quand Paul dit « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis », il parle à une communauté qui est formée justement de Grecs, de Juifs, et actuellement, ils ont de la difficulté à travailler ensemble, à s'unir ensemble. Il dit, accueillez-vous les uns les autres. Accueillez les forts, les faibles, mais ça dépasse. Accueillez-vous les uns les autres. Et nous avons besoin de savoir ces choses ici. Nous avons tout à l'heure dit que cette culture s'exprime en symbole, en lieu, et ça mène un grand débat dans l'espace public, et j'aimerais en discuter quelques minutes avec vous, et c'est l'espace de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? C'est plus profond que ça. Même avant que les immigrants arrivent et demandent un commandement raisonnable, le mouvement laïque avait une telle poussée à partir de 1975 de dire non, la religion n'a plus sa place dans l'école. Et vous savez que nous-mêmes, comme Église, comme communauté, on avait des écoles confessionnelles, complètement autonomes et financées par l'État. Et un des premiers mouvements, ça a été de dire que la séparation Église et État, le premier mouvement que ça a été que fermer nos écoles à nous. Et en quelque part, on était frustrés parce qu'ils nous avaient promis, dans ces discussions-là, que nos écoles ne seraient pas touchées. Donc, est-ce qu'il y a eu mensonge? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y avait un mouvement très fort laïque, humaniste, qui voulait sortir de la religion, les écoles confessionnelles, dans l'espace public. Et ils l'ont fait, graduellement. Ils ont passé de 75, 87, 90, 95, 2000, et à chaque fois, l'école a perdu, a tout perdu. Parce que c'était, si vous voulez, deux courants de pensée qui s'affrontaient, et la multiplicité, ou l'école plurielle, où il y avait justement les autres religions, ça a tout simplement donner du poids à ce mouvement. Ça donne seulement du poids. Mettons ça à la bonne perspective. Et on arrive à 2008, il y a ce qu'on appelle les accommodements raisonnables. Ce qu'on appelle le cours ECR, éthique et culture religieuse, qui n'est plus un cours qui transmet la foi ou la religion. C'est seulement un cours du mieux vivre ensemble, où tout le monde va essayer de se parler, se comprendre un peu, dans le respect des uns des autres. Ce qu'on parle ici, c'est l'écoute généreuse, mais, et je veux parler du défi, c'est l'écoute généreuse de l'autre, le respect de l'autre, c'est-à-dire dire tu existes, j'existe, je crois ce que je crois, toi tu crois ce que... On va s'écouter, on va se respecter dans l'espace public et on ne viendra pas se battre dans l'espace public. Et les religions ne seront pas cause de division, puisqu'on va vous enseigner qu'un bon citoyen et tolérant pour l'ensemble. Vous comprenez la mentalité? Et ils vont le faire avec les enfants qui vont grandir dans cette communauté plurielle. Et les enfants vont grandir en disant, « OK, je comprends c'est quoi un musulman, un bouddhiste, un hindouiste, un shintoïste. Je comprends ces choses-là, je les comprends. » Mais la beauté aussi, et là je voudrais être positif, la beauté c'est que dans cette laïcité ouverte, il y a une pensée qui est fondamentale en disant l'enfant qui vient comme un individu a tout son bagage familial, son bagage de ses croyances, ses valeurs, et il va pouvoir les exprimer dans l'espace de l'école. Donc, c'est une entrée pour nous importante où l'enfant qui vient à l'école, et ça, c'est notre devoir, notre responsabilité en tant que parents, nous-mêmes nous sensibiliser aux problèmes d'une société multiethnique, où on est appelé à vivre ensemble dans, selon les droits de la personne, dans un esprit de dignité, de tolérance, etc., mais pas en faisant de la tolérance de l'indifférence, parce que la tolérance est très proche de l'indifférence, mais tout simplement en disant, nous allons faire un effort collectif à nous-mêmes à réfléchir, à enseigner à nos enfants, parce que l'école ne le fera pas, mais préparer, équiper nos enfants d'entrer dans le débat public, à leur niveau, à leur hauteur, en disant, je vais exprimer ce que je suis. Ce que je suis comme personne, une identité claire, nette, cohérente, où je rentre en dialogue. et personne va pouvoir faire taire l'enfant, et l'enfant va pouvoir faire des activités typiquement liées à lui. Pas à la religion, pas à un organisme comme l'Église. L'Église n'a plus accès à l'école. L'Église n'a plus accès à l'espace public, sinon par le biais de l'enfant qui est là, ou nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pense que nous, comme parents, nous devons reprendre la responsabilité de regarder notre société dans l'esprit de dire, nous allons être des parents conscients de cette société en changement, où il va y avoir les migrants, et mes enfants vont être dans un monde que moi, je n'ai pas connu. Donc, je vais devoir faire l'effort de connaître, et après de savoir qu'est-ce qu'un musulman pense, qu'est-ce qu'un shintoïste pense, un hindouiste pense, et équiper, parler à mon enfant, de dire, tu vas être face à ça, et comment on va réagir, en donnant une identité sûre à l'enfant. Et ça, on a un devoir. Donc, de responsabilité et de veiller sur ce qui se passe dans l'espace public. Vous savez, il y a un mouvement qui est sorti, c'est vrai, la religion de l'école. Actuellement, l'enfant a le droit, justement, d'être ce qu'il est. Et il doit être respecté. Et l'État promet qu'il va rester neutre, sans influence, ce qui n'est pas vrai. Les professeurs, il ne faut pas se le cacher, les professeurs, personne n'est neutre. J'arrive à mes convictions et vous me voyez venir. J'arrive à ce que je suis. Et je lance un défi incroyable à l'Église. Trois défis. Le premier défi, être un lieu d'accueil et d'intégration, d'assimilation dans le bon sens du mot. Pas qu'ils perdent leur valeur ou leur différence, que j'apprécie leur valeur, leur différence et leur rapport. Et que je leur fasse une place et que je tisse des liens vraiment fraternels. Selon le Seigneur. L'immigrant qui n'est pas dans cette Église est à l'extérieur. Si je peux faire contact, si je peux tisser des liens, je le fais. C'est mon devoir d'accueil dans une société plus large. La deuxième responsabilité, le deuxième défi, c'est moi, comment moi je me situe. Si à quelque part, je deviens un peu indifférent à ce qui se passe autour de moi, dans mon esprit de tolérance, qui est une valeur, une vertu dans notre société, à ce moment-là, je me retire du débat, je me retire de la réflexion, je me retire du discours et du dialogue avec, dans mon milieu familial, dans mon milieu ecclésial, mais aussi avec mes enfants. Parce que c'est inconnu pour moi. Donc, parent, je dois faire l'effort de m'instruire, de m'informer de ce phénomène. Ce phénomène de ces différentes cultures. Vous allez dire, c'est beaucoup. Non, ça se résume bien, ça se travaille bien. Et puis, je vous le dis, ça va arriver. La responsabilité que vous avez, c'est d'éduquer vos enfants. Mais en tant qu'Église, nous avons une autre responsabilité. C'est d'envoyer aussi, vous allez dire, c'est peut-être gros ça, mais d'envoyer nos meilleurs dans le système scolaire, dans nos écoles, pour influencer. Parce que si c'est des professeurs qui enseignent l'éthique, prenons pour acquis que l'éthique va être là en 2008, et ça semble être là, l'éthique et culture religieuse, mais si nos professeurs envoient dire, moi là, j'ai une vision d'être dans l'école, l'école me demande d'être neutre, je ne suis pas neutre, je le sais, à ce moment-là, je vais influencer correctement dans l'enseignement, toute la formation. Sinon, qui va les enseigner nos enfants? Qui va enseigner nos enfants? Des gens qui ne croient pas à la religion? Des laïcs qui sont anti-religieux? Des imams? Ou des gens qui viennent du monde musulman, qui vont s'inscrire, qui vont le faire? Ou d'autres vont le faire, mais on ne sera pas là. Et on parle d'accommodement raisonnable. L'accommodement raisonnable, c'est ça. Sincèrement. C'est qu'en quelque part, si on veut que ça soit raisonnable, il faut être capable d'influencer, de discuter et d'échanger sur ces choses-là. Il faut ouvrir le dialogue et c'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai des professeurs qui sont chrétiens, qui m'ont dit ceci. Ils m'ont dit, Roland, avec le nouveau programme, moi, je sors du programme. Je ne peux pas enseigner ce que l'islam enseigne, mais j'ai dit, c'est pas un cours religieux, c'est que tu donnes l'information sur l'islam. Non, moi, je parle de conscience. Mais je dis, tu te trompes. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, tu devrais être en première ligne. Parce que les gens, ils vont essayer de tout le monde influencer cette génération, et tu n'es pas là. Sois là où on veut l'influence se fait. Le combat est là. Et le grand combat de notre société, au-delà des accommodements raisonnables, c'est l'humanisme. C'est le laïcisme contre la religion et les valeurs religieuses dans l'espace public. C'est ça. Et chacun va se battre. Les radicaux, les extrémistes, ils vont demander leurs droits. La société va dire oui, s'il n'y a pas une question de distribution, de discrimination, oui, s'il n'y a pas des valeurs économiques attachées. Un exemple, si tu demandes est raisonnable ou non. Mais comment juger le raisonnable et le déraisonnable? C'est une question du bien commun. Qu'est-ce qui est le bien commun? Pour nous, il s'agit. Donc, le défi réel pour nous, dans ce débat, de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, de s'y engager, et en même temps, mais premièrement comme parents, dans l'espace public. Et le grand combat est actuellement l'école. C'est le grand combat. À ce moment-là, il nous faut être là. Période de questions, peut-être 5 minutes. C'est terminé? C'est terminé? Pas de questions? Pas une question? 2 questions? Joël, c'est la grâce, là. On est sous la grâce pour quelques minutes. C'est un débat important. C'est difficile de résumer toute cette pensée-là en 45 minutes. Mais allons-y. Une question.
J'ai accroché tantôt sur le fait que vous avez mentionné que le gouvernement était sensible, mais en même temps, pas impliqué.
Oui.
Alors, comment se fait-il que ces gens-là qui viennent de l'extérieur vont obtenir des permissions du gouvernement et eux ne voient pas l'impact que ça a sur le
Je dirais que le gouvernement est dans cette tension entre l'ouverture à l'autre parce qu'il l'invite chez soi. Donc, ils veulent, il y a cette sensibilité-là et cette tension, justement, de l'impact sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'il doit faire, il doit nous, en quelque part, nous amener dans cette réflexion en disant jusqu'où vous allez être ouvert. Mais le gouvernement lui-même est dans cette tension, dans la discussion, dans le dialogue. Mais c'est ça qu'il a fait. Et c'est ça qu'il fait. Et c'est pour ça que la commission Bouchard-Taylor, le Québécois, il ne s'y comprend pas. Il ne se situe pas. Donc le gouvernement dit, ben, comme société d'accueil, on doit être ça. Et on doit apprendre à vivre ensemble, dans nos différences, dans le respect des uns des autres. Mais en même temps, le Québécois dit, moi je me sens insécure dans tout ça. Qui suis-je? Je me perds. J'ai plus de repères en valeur. Il y a un vide. Et le Québécois il est dans un vide de valeur. À ce moment-là, ça, je vous dis, les autres vont nous amener à nous positionner à nos valeurs. Dire, on va l'affirmer. Et là, il y a une discussion entre qu'est-ce qui est raisonnable dans l'affirmation. S'il y a une réaction de peur, il y a un retrait. S'il y a une réaction juste et correcte de notre identité, de nos valeurs qui sont reliées, à ce moment-là, il y a un dialogue et il y a un consensus. Mais actuellement, le Québécois, en général, se retire en disant il chiale en arrière, mais en quelque part, il doit avancer en disant qui suis-je, moi? Comment l'immigrant, et à cause que nous sommes protestants plus que jamais, et nous avons cette responsabilité, comment moi je vais l'accueillir? Comment moi je vais faire? Et s'il est différent de moi, jusqu'où mon respect? Nous avons été des minorités et nous savons que nous avons été maltraités. Mais faisons pas aux autres ce que nous avons subi. Oui.
Oui.
Quand on regarde au niveau des écoles, quand les jeunes arrivent avec leur capement à l'école, c'est un symbole religieux.
C'est un symbole religieux, ça fait partie de leur identité.
C'est ça l'immigrant.
Vision, culture, code vestimentaire.
Les autres,
Accommodement raisonnable.
C'est ça d'expliquer aux autres ados, par exemple, si eux autres voient plutôt là-dedans.
Exactement. Ils voient une discrimination. Ils voient que lui, il peut le faire, moi, je ne peux pas porter mon canif dans mes poches. Parce que ce n'est pas religieux. Et actuellement, nos gouvernements et la Cour suprême du Canada disent que tout ce qui est religieux, c'est la pratique religieuse et la conscience religieuse qui la définit. Donc, si le kirpa est un objet religieux, un symbole religieux, ça fait partie de son identité. Et dans une société d'accueil, C'est pas, ce serait discriminatoire de le priver. C'est ça le problème que nous avons. Mais en même temps, dans un accommodement raisonnable, on peut pas, la masse ou la majorité ne peut pas imposer à la minorité sa façon de penser et sa façon de se vêtir ou sa façon de vivre sa religion. Il doit avoir un accueil. C'est ça le défi. Ben, ils ont fait des protections, ils ont cousu. Oui, une dernière question.
Dans la même idée, par contre, ce garçon-là, son père, qui veut garder le couteau, nous demande par contre d'enlever nos croix. C'est là qu'est le problème majeur.
Le problème majeur, en fin de compte, c'est pas tellement eux qui demandent d'enlever les croix. Je voudrais replacer les choses. Portons pas ça du monde, c'est le monde laïque. Le monde laïque. Que la croix soit depuis 1936 à l'Assemblée nationale, eux disent c'est un symbole. Non, c'est un symbole historique. C'est un symbole et vous êtes supposé être neutre. Ça doit disparaître. C'est ça le débat. Ce sont les laïcs. C'est la laïcité qui est le problème avec nous. La laïcité contre les valeurs du christianisme et contre le christianisme dans l'espace public ou dans les religions dans l'espace public. Actuellement, les immigrants portent bien le chapeau, en partie, mais c'est le mouvement laïque qui est en arrière de le changement scolaire, sont en arrière de tous les changements. L'arbre de Noël, les fêtes, c'est le mouvement laïque qui est en arrière, beaucoup plus que tous les amendements, les mondes immigrants.
Puis on a un autre problème, on manque de temps.
La prochaine fois, m'inviter,
mais...
c'est une bonne discussion.
Ouais. Voilà.
Alors, on remercie notre conférencier invité ce matin. Si vous avez d'autres questions, vous aurez l'occasion d'aller le voir aussi après. Le manque de temps, malheureusement, il faut quand même arrêter là, ce matin. Mais j'aimerais lui demander qu'il termine ça avec un beau sourire. Là. On va prier, OK, ensemble pour terminer ça. Prions ensemble. Alors, merci Seigneur notre Dieu de ce qu'on a pu être ici ce matin. Merci pour Roland. Et les défis qu'il nous a présentés, Seigneur, c'est quelque chose pour nous parce que nous savons, Seigneur, que tu nous exhortes justement à nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis personnellement. Et si tu as changé notre cœur, Seigneur, si tu as mis en nous un cœur de chair, si tu as mis en nous, Seigneur, un intérêt au lieu de l'indifférence, c'est parce que nous avons goûté à ton amour. Et Seigneur, nous voulons aimer ces gens qui sont autour de nous, non seulement nos contemporains, mais aussi l'étranger, celui qui s'est envenu ici et qui a besoin aussi d'entendre parler de ton amour, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Merci encore de ce temps. Bénis le restant de cette journée. On la remet en tes mains, car c'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Amen.